Salut tout le monde, alors vous êtes sur le podcast de Fatine
et Ali.
Et le sujet du jour, c'est couple et amour. On a beaucoup hésité entre ça et positivité. Finalement, c'est le couple et amour qui remonte. Il y a probablement le podcast positivité qui reviendra par la suite. Mais on va se focaliser sur l'amour.
C'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui nous touche quotidiennement. Et donc, on va essayer de partager un peu notre expérience et
répondre à vos questions du coup qu'on a pu récolter. Il y en a des pas mal, certaines plus sérieuses que d'autres, et
il y a des questions plus philosophiques que d'autres. Donc, on va essayer de répondre de manière
synthétique. L'amour, c'est ça aussi, on complète.
On finit la phrase de chacun. Voilà. Ça peut être sympa, ça.
Alors, on va commencer par une première question qui a été posée il y a quelques jours, qui est tout simplement, c'est quoi l'amour? Alors, c'est une question quand même qui est assez vaste, très philosophique. Pour moi, l'amour, c'est un sentiment d'abord qu'on ressent envers une personne. Ça peut être un membre de sa famille, ou son ami, ou un partenaire, ou une personne qui ne nous connaît pas encore.
On va essayer de compléter cette définition au fur et à mesure en répondant aux différentes questions.
Voilà, donc on a fait une bonne petite sélection, et donc en passant à la question suivante, qui est assez intéressante quand même, et qui revient, je pense, chez pas mal de couples probablement, c'est « Que pensez-vous des relations à distance ?» Alors, je pense qu'on a une autre dose de relations à distance, on en a bavé pas mal, mais je pense que ça, c'est quelque chose quand même qui en vaut la peine si la personne en face en vaut la peine aussi.
Et il y a aussi une chose importante avant de pouvoir expliquer la relation à distance, c'est on a aussi eu une période où on n'était pas à distance. C'est là la période importante dans un couple aussi, de créer une base. Donc, pour pouvoir penser à une relation à distance, c'est aussi...
Il faut que la fondation soit présente. C'est vrai qu'on a eu la chance de d'abord ne pas être à distance avant de l'être. Et donc, qu'il y a plusieurs calques à cette histoire. Mais oui, non, je pense que c'est tout à fait faisable. Mais la clé d'une relation à distance qui fonctionne,
une bonne communication, de la confiance,
voilà,
et faire
bonne communication, et avoir confiance en la personne, parce qu'effectivement l'autre n'est pas là, il faut avoir confiance en lui, et aussi communiquer convenablement assez souvent, et être ouvert l'un envers l'autre.
Ne pas cacher, allez, s'il y a un problème, il faut partager.
Voilà, c'est le partage.
C'est pas parce que la personne n'est pas présente
que ça ne sert à rien de raconter telle ou telle chose. Oui,
au contraire, c'est important, parce que c'est ça qui nourrit la relation, c'est le partage, et on sent que la personne a besoin de vous, et c'est comme
même
ça.
Si la personne n'est pas là, quelque part elle est là, parce qu'on parle souvent, on partage tellement de choses qui parfois sont futiles et qu'on ne partagerait même pas si on était l'un en face de l'autre, et pas là, l'un loin de l'autre.
Je pense que c'est un bon test pour une relation. C'est quelque chose de dur, mais la personne, est-ce que le couple peut sortir vainqueur de cette...
Ça nous rend plus fort, je pense.
Exactement, parce que tu passes tellement d'épreuves, tellement...
On attend quand est-ce qu'on va se voir.
Il y a plein de...
Non, je pense que c'est un bon test pour savoir si le couple est assez solide. Effectivement, si le couple fonctionne bien et qu'une fois à distance, ça marche plus. C'est un peu dommage, c'est-à-dire que le couple n'était peut-être pas assez solide, ou alors que simplement il n'y avait pas de fin à cette distance, ils n'ont pas réussi à en finir de cette distance, parce qu'à un moment, je pense qu'il faut que l'un finisse par rejoindre l'autre, on ne reste pas à distance à vie. Et justement, quand on dit qu'est-ce qui fait tenir le couple, je pense que c'est aussi de savoir qu'il y a une date de péremption de cette distance. On sait qu'on va se voir dans 3 mois et qu'on va passer 2 semaines ou 1 semaine l'un avec l'autre, et que l'année prochaine, cette distance se termine.
C'est important, parce que pour réussir à dépasser cette épreuve, c'est un tout, parce qu'il faut partager, il faut avoir confiance à la personne, et surtout rester ouvert et ne pas avoir de restrictions de vie, c'est-à-dire... vivre quotidiennement de manière naturelle et partager, et c'est la clé de la réussite, parce que
clairement
Allez, ça ne sert à rien de dire que je vais arrêter de vivre et j'attends l'autre personne qu'elle arrive pour qu'on commence à vivre. Et...
Oui, voilà, il faut essayer de rendre sa relation à distance, pas non plus invivable et triste et pas trop voir le côté négatif de la chose, parce que sinon, effectivement, ça marchera difficilement et on aura la chose encore plus difficile à vivre. Donc, je pense qu'il faut voir le bon côté, continuer de partager, continuer de sortir, vivre sa vie, tout en étant en couple et bien évidemment en faisant confiance à l'autre et qui mérite aussi notre confiance à nous.
Évidemment.
Question suivante.
Vas-y.
Alors, parlez-nous du moment où chacun de vous s'est dit « it's the one », c'est le bon.
C'était quand, Fatim?
Bonne question. Je pense que tu sais répondre à cette question un peu mieux que moi. Toi, tu as peut-être une date un peu plus précise, romantique qu'est ce monsieur. Quand est-ce que j'ai su que c'était le bon? Je pense que, en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui se construit petit à petit. Il n'y a pas un jour X, on se lève le matin, on se dit « Ah, c'est le bon ».
C'est pas vrai.
peut-être pour toi. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on expérience jour après jour et ça se confirme en tout cas jour après jour. On voit des choses qui nous rappellent chez nous, qui nous rappellent la maison, qui nous font du bien et qui reflètent un peu l'image qu'on s'était imaginée de l'homme avec qui on a envie de finir sa vie. Et au fur et à mesure que ces petites choses s'accumulent, le puzzle se forme et on se dit effectivement c'est le probablement le bon. Et donc on s'accroche davantage. Mais je pense que moi, si je devais fixer peut-être une période où je me suis dit c'est le bon, probablement il y a 2 ans, bien que je n'ai pas, on n'est pas toujours assez prêt pour pour exprimer ce genre de choses, pas toujours prêt pour exprimer ce genre de choses. Mais c'est pour ça que savoir que c'est le bon, ça vient aussi avec de la maturité. Et c'est question de timing.
Oui. Très bien résumé.
Merci.
Moi, comment dire alors?
Quand est-ce que tu as su que j'étais la bonne?
Comme tu as dit, c'est un
cumul. Hier.
C'est un cumul de beaucoup de choses.
Ouais.
Je pense que chacun idéalise l'homme ou la femme de ses rêves.
Mmh.
Et par rapport à notre relation, c'est un...
Il stresse
Non, c'est pas ça. Notre relation a été fondée... On a commencé par les meilleurs amis.
Ouais, les meilleurs amis.
Et du coup, avec le temps, quand tu connais très bien la personne, et tu as aussi certains critères, et tu sais ce que tu veux dans la vie, et... Mmh. Donc, au moment où ça s'est fait pour la première fois entre nous,
ouais,
c'était le moment. J'ai su que c'était ça. Et donc, si je devais définir, c'était notre début de relation. Il y a des gens qui vont se dire « Ah, ce mec, il est un peu bizarre. » Mais non, parfois, mais c'est un sentiment. Tu as les étoiles dans les yeux. Désolé. Mmh. Tu peux... Il n'y a pas forcément un moment précis.
Ouais.
Mais juste quand tu partages beaucoup d'émotions,
c'est fou en fait, c'est parce qu'on avait déjà partagé pas mal de choses avant
d'explorer ces...
Voilà, on a été amis et meilleurs amis, on a partagé tellement de choses, donc je pense que c'est quelque chose qui s'est construit dans le temps et finalement quand c'est venu
c'est venu naturellement et
ouais.
Il n'y avait pas de réflexion, mais une chose qui est sûr.
Ah, j'ai peur.
J'étais sûr d'ouvrir mon mari avec toi.
Et donc, à l'époque déjà.
Et donc.
J'apprends des choses.
Et du coup, voilà, donc. Je suis content de.
Qu'on ait abouti à ça.
Qu'on soit marié fait.
Ouais.
Et donc, voilà. Je pense qu'il n'y a pas forcément un moment précis, mais pour moi personnellement, ça a été. Au moment où notre relation
a commencé au tout départ.
La concrétisation de notre relation.
Next question. Vous êtes restés combien de temps ensemble avant de vous marier? Si cute, vous deux.
C'est mignon.
Alors, en tout et pour tout, on dit ou...
Oui, en tout et pour tout. Allez, on a cumulé 3 ans de relation.
Et... Ouais, je pense que comme tous les couples, on a aussi eu nos hauts et nos bas. Mais si on cumule le tout, on a été ensemble 3 ans. Suite à quoi, on s'est mariés.
Voilà.
Je vais te laisser lire la question suivante.
Alors, comment convaincre la bonne personne à venir demander notre main? Qu'en penses-tu, madame?
Je pense qu'il ne faut pas chercher à convaincre. Si on cherche à convaincre, ça ne commence pas forcément bien. Je pense que la meilleure manière de, aller entre guillemets, convaincre, on va dire, pour réutiliser les termes de la question, ce serait d'être la meilleure version de nous-mêmes, tout simplement.
Je pense il faut laisser les choses arriver naturellement, de façon naturelle. Il n'y a pas...
Je pense que
c'est... Il n'y a pas forcément une date ou un moment où, pour dire que c'est le moment pour se marier. Ça doit venir à deux. C'est une
décision. Mais parfois, on a une personne en face qui n'en parle pas forcément et on a l'impression d'avancer dans une relation qui peut-être ne mènera à rien parce que il faut avoir ces discussions sérieuses.
Oui, il faut avoir, mais sans pour autant convaincre la personne parce que allez, il y a un problème si tu convaincs une personne.
Oui, voilà, s'il faut la convaincre, c'est qu'il y a un problème.
Donc, peut-être pour un homme ou une femme, il faut du temps pour se sentir prêt à se marier, c'est une responsabilité. Mais ça ne veut pas dire que. Il faut avoir cette discussion une fois.
De temps en temps.
De temps en temps, mais ce n'est pas un sujet qui doit ressortir à tout moment. Et...
Oui, il ne faut pas que ça devienne un sujet tabou non plus. Si on en parle tout le temps, bon alors, on en est où et essayer de forcer les choses, forcément, la personne en face va finir par prendre ses clics et ses claques et vraiment flipper et s'en aller. Mais okay. Je pense, quand je disais qu'il faut être la meilleure version de nous-mêmes, je pense que c'est quand on est la meilleure version de soi-même que la personne en face se dit « Waouh, c'est ce que je veux ». Et ça ne veut pas dire être fake et monter une image qui n'est pas, mais juste... Être la personne qu'on a envie d'être quand on est en couple. Et
il faut donner le temps au temps.
Il faut donner le temps au temps, voilà.
Voilà.
Question suivante. Comment savoir que mon chéri m'aime d'un amour sincère et pur? Comment je sais que tu m'aimes d'un amour sincère et pur?
Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire haut et fort ses sentiments.
Ouais, mais je pense que pas tout le monde est capable de ça, et il y en a qui prennent ça peut-être pour une faiblesse. Si je dis à cette personne que je l'aime, alors c'est que je suis faible et qu'elle aura un ascendant sur moi. Et...
Non, je suis pas d'accord parce que.
Oui, mais certaines personnes.
Oui, mais après, c'est des avis et chacun a son propre.
Sa propre manière de faire.
Exactement, et du coup, je pense que le fait de partager les choses à haute voix avec des actions. Et des mots ou autre chose.
Des actions surtout. Il faut agir et faire.
Et je pense que c'est ça qui fait aller nourrir la flamme aussi, parce que sans ça, on peut s'installer facilement dans des routines ou autre chose. Donc je pense que pour être sûr que la personne
est sincère,
c'est par des actes et l'attitude et. Le côté naturel
de la chose, on sent que c'est pas forcé, on sent que la personne nous aime parce que nous, en plus de ce qu'elle nous raconte, elle agit et fait des choses en conséquence. Et je pense que c'est comme ça qu'on sait que l'amour est sincère. Après, évidemment, c'est dommage de ne pas être capable de dire haut et fort ce qu'on pense et de le prouver pas simplement parce qu'on a l'impression que c'est une faiblesse. Peut-être qu'il y a des personnes qui réfléchissent comme ça. Mais au contraire, moi, je trouve que c'est une force de pouvoir partager ses sentiments et de le montrer un peu tous les jours.
De différentes manières.
Voilà.
Question suivante. Avec les histoires qu'on entend chaque jour et divorce, comment est-ce possible d'être en couple?
Il ne faut pas démoraliser.
Non, c'est très agréable d'être en couple. Il ne faut pas rendre un problème une généralité.
Oui, clairement. Je pense que quand on veut une chose, on se concentre sur les expériences qui ont fonctionné. Et c'est ça qu'on prend comme exemple, et pas les expériences ou les personnes, les couples qui n'ont pas marché. Ce serait dommage de se focaliser sur le négatif. Parce qu'il y a des relations qui fonctionnent et des couples qui marchent très bien et qui perdurent. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut se focaliser. Et les relations, au contraire, qui n'ont pas abouti et qui ont fini malheureusement en divorce ou en rupture, au lieu de tirer ça comme conclusion, il faut voir pourquoi ça n'a pas marché et essayer de faire fonctionner son couple de manière à ne pas tomber dans ce problème. Et donc, on tire le meilleur de cette expérience au lieu de se dire, mince, bon, bah, y a beaucoup de divorces, donc à quoi bon ?
Je suis d'accord. Ouais.
Alors, on va passer à la suite. Next question. Expectations versus reality, les surprises. Pour les non-anglophones, ça veut dire, en gros, ce à quoi on s'attend, ce qu'on imagine, et finalement, la réalité qui nous tombe dessus, c'est pas du tout ce qu'on pensait. Et donc, comment gérer ce genre de surprise, ou encore mieux, comment ne pas tomber dans le panneau, finalement.
Alors, madame, tu as eu quelques surprises?
Non, je ne pense pas, mais il faut dire qu'on se connaissait déjà pas mal, mais on apprend encore et toujours à se connaître, alors que ça fait 10 ans que je te connais. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on tombe dans des situations qu'on n'a jamais vécues ensemble, parce qu'en étant marié, c'est pas être en couple copain-copine, mais aussi on rencontre des expériences, des choses qu'on n'a pas vécues avant, et donc on voit des traits de caractère ou des choses chez l'autre qu'on ne connaissait pas avant, ou on apprend tout simplement des choses, des histoires qu'on ne savait pas auparavant. Donc on apprend finalement jamais on finit jamais d'apprendre des choses sur l'autre. Mais pour se concentrer plus sur la question, expectations versus reality, je pense que si on connaît bien la personne, on est généralement, souvent,
Pas déçu,
ou en tout cas, il n'y a pas trop de surprises. C'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à connaître la personne avant d'être en couple, et pire, avant de se marier. Et en tout cas, au moins connaître les choses, les basiques, les choses importantes, primordiales, et se fréquenter un maximum pour justement éviter ce genre de surprises. C'est vrai qu'il y a des couples qui sont ensemble et qui pensent se connaître, mais qui n'ont jamais du coup vécu ensemble, et la société marocaine nous pousse à ce type de scénario. Et finalement, une fois mariés,
on découvre
des choses parce qu'on n'a jamais vécu avec cette personne, ouais. Donc on ne sait pas comment ça se passe au réveil, au coucher, à midi, et voilà, donc on découvre forcément des choses. Mais c'est pour ça qu'il faut connaître les basiques et les choses les plus primordiales et importantes chez l'autre, pour éviter un maximum ce genre de surprise.
Et surtout, allez, il y a différents types de scénarios. Allez, il ne faut pas oublier que ce n'est pas la première erreur qu'il faut laisser tomber le couple.
Oui, voilà, ce n'est pas parce qu'on découvre des choses qu'il faut... Exactement. Ah, ce n'est pas ce que je pensais.
Il y aura peut-être des petites surprises, pas forcément par rapport à la personne en soi, mais c'est juste qu'en tant que jeune couple marié, vous apprenez à vivre ensemble et il y a certaines responsabilités nouvelles.
Mais il ne faut pas oublier que la personne en face aussi va découvrir des choses sur nous, et ce n'est pas ce à quoi cette personne s'attendait non plus. Donc, il y a un travail à faire sur soi, et voilà, mutuel, et l'autre aussi. Et un couple, finalement, c'est ça. Donc,
c'est le partage. Et c'est, moi, je veux juste dire une chose, c'est qu'il faut...
Tintin, là.
Comment ça?
Vas-y,
j'attends. Non, c'est juste que il faut pas, la première chose qui arrive, on décide de laisser tomber le couple, ou non, on est là l'un pour l'autre, il y a des hauts et des bas, et certes, quand on parle de surprise, une surprise qu'on peut avoir, c'est une personne change du jour au lendemain, et ça, c'est inacceptable. Mais quand c'est des surprises, c'est-à-dire pas forcément lié à un quotidien, mais
des problème futile,
ça de, il faut dépasser ça et grandir ensemble. Et...
Ouais, je pense qu'il ne faut pas avoir peur aussi de c'est l'avenir. Ce que j'ai imaginé et c'est ce qui doit arriver. Il ne faut pas non plus mettre la pression sur ça. Il ne faut pas en avoir peur et il ne faut pas non plus se dire
«
bon, vu que c'est comme ça que j'ai imaginé, ça doit être comme ça. Et si la personne n'est pas comme ça, alors c'est pas bon. » Non. N'est-ce pas? Il rigole.
Je sais pas, moi, je pense que si tu décides de te marier avec cette personne, c'est que vraiment tu te sens que tu es à l'aise avec cette personne. Et la réalité ne peut qu'être meilleure parce que avant d'être en couple et vivre avec la même personne, déjà tu es satisfait et content et tu as créé quand même une certaine bulle.
Mm-hmm.
Et donc, une fois que vous êtes ensemble, ça ne peut pas être pire. Au contraire.
Mais normalement.
Oui, mais après, on ne peut pas prendre, encore une fois, un exemple sur combien pour, mm-hmm. comme un exemple de généralité, non. Donc, il faut croire en un avenir meilleur.
Il faut avoir foi, je pense, en l'avenir et ne pas. Il ne faut pas que les expectations, justement, dépassent le possible et soit à l'image d'un conte de fées et s'imaginer que le prince charmant va frapper à la porte. Et s'il ne frappe pas à la porte,
Il est là.
Alors, voilà. On va passer à la suite. How did you keep the spark lightning? En d'autres termes, comment vous avez gardé la flamme? Qu'en penses-tu?
Je pense que c'est un travail quotidien.
C'est sûr.
Un travail d'équipe.
Il ne faut pas prendre l'autre pour acquis.
Oui, et être toujours présent, les petites attentions, et que ce soit naturel, pas forcé.
Ça doit venir naturellement aussi, et même les petites attentions. Parfois, on s'oublie, on a l'impression que voilà, on est avec l'autre personne et du coup, elle est limite acquise, on n'a plus besoin de faire d'efforts, alors que c'est tout à fait le contraire. Si on ne fait pas d'efforts, comment le couple pourra fonctionner à long terme? Et le fait de faire quelques petites attentions, que ce soit un petit message, un coup de téléphone, des post-it à droite à gauche, c'est des petites attentions qui font plaisir, qui coûtent rien et ça prend quelques minutes et ça fait plaisir à l'autre
et ça nourrit le couple
et du coup en donnant, l'autre a envie de donner aussi en retour et c'est comme ça que ça fonctionne et c'est pas parce qu'on donne qu'on ne doit pas attendre, on doit rien attendre en retour.
Exactement.
On donne parce qu'on a envie de donner mais automatiquement l'autre va faire pareil.
Ouais, ça doit aussi être un équilibre
bien sûr.
La clé, c'est elle est tout partagée et que ce soit manière à...
Ouais, c'est une manière de bien gérer les choses et c'est cette affection et les petits gestes quotidiens et le partage qui font que la flamme reste bien vivante.
D'accord.
Alors ensuite, est-ce qu'un couple peut survivre au long terme en l'absence totale d'une attirance physique? Moi, je pense que non. Non, mais je pense que...
Tu es attirée par moi, chérie.
Bien sûr. Non, je pense que être en couple avec quelqu'un par qui on n'est pas attiré physiquement, c'est quand même difficile et peut-être qu'au long terme, c'est dur à gérer. Mais effectivement, il y a des critères quand même qui sont beaucoup plus importants que ça. Et il faut voir toute l'image et pas juste le physique tout seul comme une entité à part. Mais,
all pack ou rien.
All pack ou rien. Mais oui, c'est vrai que quand on rencontre quelqu'un, on est attiré par son physique et c'est ce qui nous pousse ensuite à parler, faire connaissance. Et voir s'il y a une attirance derrière, autre que physique, mais voir si on a des points communs, des choses qu'on peut partager, et on passe à l'étape suivante. Et bien que cette personne soit belle, si on se rend compte qu'on n'a aucun point commun, il n'y a pas de sujet de discussion à partager, on ne passe pas à l'étape suivante. Donc finalement, la personnalité donc, gagne, le physique, ça tout le monde le sait. Mais être avec quelqu'un avec qui on s'entend bien, mais s'il n'y a aucune attirance physique, en tout cas de mon humble avis, à long terme, c'est difficile. C'est important d'être attiré par la personne en face de soi. Et je pense que ça a tout son importance. C'est pas la plus importante, mais...
Je te rejoins dans ton avis. Allez, c'est un
donc
critère.
Donc, je suis belle.
Bien sûr, chérie. Ça reste important, mais ça ne doit pas aussi être un critère qui passe devant tous les autres critères. C'est une image complète. On doit avoir un peu de tout.
Est-ce que si on nous présente quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout et qu'on voit cette personne de loin et on voit qu'elle n'est pas à notre goût, c'est pas notre style, est-ce qu'il faut dire c'est pas mon genre, je préfère ne pas aller lui parler, ou est-ce qu'il faut se dire il faut quand même donner sa chance, je vais lui discuter, on sait jamais, alors que
Ça dépend. C'est assez difficile parce que non, parce que elle est de loin, peut-être physiquement de loin, c'est pas le type ou là, c'est pas la fille de tes rêves ou je sais pas quoi. Mais une fois que tu te poses, tu vois une image plus complète.
Et là, tu peux juger,
mais genre rencontrer une première fois.
Peut-être qu'elle deviendra plus belle juste parce qu'elle a une personnalité incroyable et qu'elle
est... Et peut-être que ça marchera pas et bon, basta, voilà, et tu passeras à autre chose.
Je pense que c'est question d'ordre, de critères d'attirance, dans quel ordre tu les places. Et voilà. Mais c'est important. Je
confirme.
Je reconfirme aussi que l'attirance physique, il faut qu'elle existe. Next question. So, est-il normal d'avoir des moments de doute, surtout quand ça devient très sérieux?
Je pense que oui, c'est quelque chose de naturel. Parce que c'est une responsabilité de s'engager, se dire...
On se pose les bonnes questions.
De se dire que c'est bon, c'est le grand pas, et il n'y a pas un chemin de retour. Il n'y a pas d'excuse, donc...
Mais justement, on pense qu'il n'y a pas de chemin de retour, mais il y a toujours un chemin.
C'est vrai.
Oui. Je pense qu'on se met trop la pression et avant d'acheter une voiture, on rentre à la maison, on réfléchit 36 fois, on passe une semaine à réfléchir encore et une fois qu'on a choisi le modèle, quelle couleur, quelle gamme, c'est un choix, et pour un choix aussi important que de sauter le pas et de se marier ou... dans ta mieux relation avec quelqu'un, forcément, on se pose les bonnes questions, on se remet en question, on doute, oui, non, et une fois qu'on prend la décision, on assume, on se lance. Et... Oui. Ouais. Mais oui, non, c'est normal, je pense, d'avoir des moments de doute, mais je pense que tout est question de timing aussi. Quand le timing est bon, les doutes sont mis à plat et on les écrase et on va de l'avant. Et quand c'est pas le bon timing, on commence. Quand on doute, les doutes justement prennent le dessus et finissent par avoir raison de nous et voilà. Mais j'ai envie de dire oui, c'est normal, mais il faut pas se laisser non plus. Faut juste se poser les bonnes questions et pas laisser
le stress envahir.
Voilà, faut pas se laisser faire par un questionnement qui n'a peut-être pas qui n'a pas tout à fait lieu d'être ou qui n'est pas très cohérent. Si on a des doutes qui sont fondés sur le fait que cette personne nous traite pas aussi bien qu'on le veuille, que c'est pas notre genre, que on s'entend pas bien ou des choses comme ça, alors que ces doutes sont fondés. Si ce sont des doutes qui sont plus liés au « oh là là, c'est une décision sérieuse, le mariage, qu'est-ce que vont penser les gens ?» Si c'est fondé sur des choses qui n'ont pas vraiment leur importance, il y a plein de sourires, alors c'est que ces doutes ne sont pas fondés, il faut les mettre de côté et se focaliser sur son couple et l'importance que ça a et l'amour qu'on a pour l'autre personne.
Eh oui.
Eh oui, bisous. Next question. Après ce bisou, est-il normal? Non, pardon. Est-ce que la fierté peut nuire à la...
Oh, que oui.
Moi, je dis oui. Yes. Naam. Si. Ouais, non, clairement. Pour moi, la fierté peut nuire complètement à l'amour et à une relation de couple. Tout simplement parce que si on apprend à ne pas mettre... si on n'apprend pas à mettre sa fierté de côté, ça va prendre le dessus sur nous et sur la relation qui est supposée être importante à nos yeux. Et pour qu'un couple avance, il faut savoir mettre ça derrière et savoir dire pardon, savoir dire j'ai eu tort, savoir dire je m'excuse et pouvoir avancer. Et bien sûr, c'est un truc, c'est quelque chose qui doit se faire dans les deux sens. On va pas mettre sa fierté de côté pour se laisser écraser alors que l'autre garde sa fierté.
Non, c'est un équilibre c'est un équilibre du couple. Parfois, il faut accepter des choses, d'autres pas. Il faut ne pas avoir peur de dire non ou oui. Il faut donner son avis. Il faut accepter les critiques. Et je pense que il y a une chose qu'on apprend entre la vie de couple en étant étudiant ou un jeune couple normal Et la différence à un jeune couple marié, c'est ce point-ci, c'est que quand on est en jeune, on a du mal à accepter plein de choses parce qu'on se dit, est-ce qu'on va finir avec cette personne? Est-ce qu'on ne va pas finir? Et une fois qu'on est marié, on partage une vie commune, on est une seule équipe, on gagne ensemble. Donc, on accepte plein de choses, mais pas juste au détriment de soi-même, mais c'est pour le bien du couple. Et je pense donc c'est un point important. Il faut savoir mettre le nous avant le jeu. Le jeu.
Oui, c'est bien dit. Et c'est dans la boîte pour le premier podcast.
C'était très sympa.
Ouais, c'est une drôle d'expérience de faire ça de manière aussi spontanée, sans préparer et donner un peu son avis. Donc, mais merci à vous tous parce qu'on a pu, grâce à vous, récolter un certain nombre de questions auxquelles on a, je l'espère, pu répondre comme vous le souhaitiez. Et on espère pouvoir enchaîner du coup sur un second podcast qui, en principe, aura pour thème la positivité.
Merci beaucoup.
Et voilà, à bientôt.
À très bientôt.
Bisous.